il est 20h, Soffresse au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9.
François Mitterrand est élu président de la République.
Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 50%.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Moi, président de la République, 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 moi, président de la République.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Tous Politiques, l'émission politique de Transistor. Pour la première fois et sans doute pas la dernière, nous sommes en direct depuis le studio d'ENS Média. Je suis en compagnie de Maëlys, Pierre et Rémi et je salue Nicolas à la régie. Bonjour à tous sur le plateau.
Bonjour Mathias.
Bonjour Mathias.
Bonjour.
Alors, pour ceux qui se seraient déconnectés de l'actualité politique, le mois dernier, voici un bref rappel. Hier avait lieu sur TF1 et RTL le grand débat de la primaire dite de gauche, celle de la Belle Alliance Populaire, qui regroupe le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche, le Parti Écologiste et le Front Démocrate. Un débat plutôt apaisé, mais qui a laissé voir des lignes de partage entre les candidats, notamment sur le bilan plus ou moins bien assumé du quinquennat de François Hollande, qui, je le rappelle, a renoncé début décembre à se représenter à sa réélection. Un autre point a suscité le débat, celui du revenu de base ou revenu minimum d'existence défendu par Benoît Hamon et Jean-Luc Benamias, mais rejeté par les autres candidats. À l'autre bout du spectre politique, François Fillon pâtit des inquiétudes que suscitent des points clés de son programme, comme la réforme de la sécurité sociale et la baisse du nombre de fonctionnaires. Les derniers sondages voient Emmanuel Macron à la porte du second tour de l'élection présidentielle et Jean-Luc Mélenchon se positionne en leader de la gauche, loin devant le PS. François Bayrou, quant à lui, laisse encore planer le doute sur son éventuelle candidature. Bref, rien n'est joué. Et je vais tout de suite laisser la parole à Maëlys, qui va nous faire la suite de sa sociologie politique.
Voilà. Avec bonjour. Aujourd'hui. Bonjour Mathias. Donc, coucou tout le monde. Aujourd'hui, un petit peu sociologie politique dans ce monde de brut, histoire d'élever un peu le débat.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Donc, sociologie du militantisme aujourd'hui, avec pour commencer une petite question. À votre avis, quelle est la part estimée de la population française qui est adhérente à un parti?
10%?
Ça se compte en centaines de milliers.
1%, contre 21% en Suède ou 10% en Italie. C'est très très peu. Donc la question que nous nous posons aujourd'hui est: à quoi ressemblent les militants politiques des grands partis français? Donc vous savez, ceux qui font sagement leur petit chèque tous les ans ou ceux qui vont assister au meeting de leur candidat préféré en car et qui se peignent des drapeaux français sur les joues. Donc je suppose que vous êtes toujours demandé, lors de vos insomnies interminables, combien d'électeurs FN avaient le crâne rasé ou tuné leur voiture? Combien de mères de foyer profs de caté étaient encartés chez les Républicains et ferventes supporters fillonistes? Ou encore, combien de profs retraités fans de Michel Onfray Mélenchon comptait-il parmi ses partisans?
C'est vrai que ça me tracasse pendant les nuits de pleine lune.
Bon, je vais un peu toucher vos espoirs. Tout simplement parce que, faute de chiffres accessibles, la sociologie n'en sait rien, ou du moins n'en a que des idées grossières, et il est difficile de dresser un portrait type nécessairement fictif et caricatural de l'adhérent d'un parti. Donc, et oui les copains, il est dur de fonder scientifiquement tous ces stéréotypes auxquels on croit dur comme fer. Donc le premier problème du sociologue, en fait, c'est que, tadadadam, le nombre d'adhérents et de militants est un secret jalousement gardé par les partis, qui ne sont pas obligés de les publier et qui tendent un peu beaucoup à les surestimer à la hausse. Donc en fait, c'est un peu comme quand on organise une manif, plus on a de troupes à revendiquer, mieux c'est. Et ainsi, il n'est pas rare que l'on passe du simple au double entre le nombre de participants aux consultations internes d'un parti et le nombre d'adhérents que celui-ci revendique. Et on compte volontiers dans le lot tous les adhérents qui, je cite, n'ont pas leur cotisation à jour. Bref, plus on ratisse large, mieux c'est. Donc bon, pour faire une sociologie infaillible du militantisme, il faudrait affirmer texto 45% des militants socialistes sont des femmes, par exemple. Et ça, concrètement, on ne peut pas. Donc du coup, les sociologues doivent ruser en distribuant des questionnaires lors des grands événements partisans à plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui ne répondent pas forcément avec de potentiels biais de sélection. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une variable sociale cachée qui va les inciter à répondre ou pas, quoi. Donc les chiffres du militantisme sont à manier avec précaution et sous plein de conditions. Donc là, je m'appuie en fait sur 4 enquêtes assez anciennes que je vais utiliser pour développer mon argumentation. Et je ne vais pas les citer direct, je vais en citer les grandes lignes en fait. Et si Mathias est bien gentil, elles seront référencées en bas de la page de l'émission. Voilà.
Très bien, on fera ça. N'est-ce pas Rémi ?
Bien sûr, évidemment, toujours, je veille.
Donc je ne vais pas détailler leur dispositif d'enquête, mais je vais faire quelques raccourcis radiophoniques pour avoir quelques grandes idées des militants des grands partis. Donc on va aller de gauche à droite, on va s'intéresser d'abord aux militants du PCF qui ont été radiographiés en 1997 par François Platon et Jean Ranger. On va ensuite s'intéresser à ceux du PS en 98 qui ont été analysés par Henri Rey, Françoise Subillot et Colette Ismal, à ceux de l'UMP en 2004 qui ont été étudiés par Florence Séjol et enfin à ceux de l'UDF au début des années 2000 qui ont été étudiés par Julien Fretel. Donc face à la bande des quatre, le grand absent, c'est qui selon vous ?
Le Front National.
Le Front National. Donc en fait, j'ai pas trouvé d'enquête sociologique intéressante du profil des militants dans leur ensemble du Front National. Mais si vous en connaissez, je suis preneuse. Donc que nous apprennent ces enquêtes qui commencent à dater mais qui sont néanmoins très parlantes. Donc commençons par le sexe des militants. Donc d'un point de vue général, en fait, à chaque fois, peu importe le parti, on constate une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes. Donc 68% des hommes parmi les répondants UMP, 72% parmi les répondants du PS. Au PCF, avec seulement 60% d'hommes contre 40% de femmes, c'est le parti le plus paritaire des quatre que l'on étudie. Donc est-ce que vous avez une petite explication sociologique de ce fait ?
Non, pas forcément.
Bah, on peut réfléchir en termes de sphère publique, sphère privée, les femmes qui ont moins l'habitude de prendre la parole en public ou de s'engager dans des débats publics. Enfin, tout simplement. Après, voilà,
c'est tout ce qu'on leur demande. Hein.
C'est tout ce que... Rémi Cerda. En ce qui concerne l'âge, on constate également une sous-représentation des jeunes de moins de 30 ans, avec 5% au PS, 20% à l'UMP. Donc c'est un chiffre un peu grossi ici, parce que l'enquêtrice a rencontré beaucoup de jeunes UMP lors de son enquête. 10% au PCF. Donc on remarque par ailleurs en outre de cette sous-représentation des jeunes, on a une surreprésentation des âges moyens. Donc les âges moyens en sociologie, c'est entre 31 et 60 ans, avec un léger vieillissement néanmoins. Donc ils sont 55% parmi les répondants du PS et 47% à l'UMP. Donc est-ce que vous avez des petites explications de ce fait-là ? Pourquoi est-ce que les âges moyens sont surreprésentés parmi les...
Je sais pas s'il y a beaucoup de retraités déjà, c'est qu'ils ont le temps.
Ouais, peut-être. Ou alors, quand on est retraité, on s'engage peut-être un peu moins, on se retire de la vie publique, ouais. Et on se concentre sur la
sphère privée. Peut-être par tradition, par...
Voilà, et donc il y a à la fois, on dit qu'il y a à la fois un effet d'âge avec un cycle de vie, puisque quand on est jeune, on n'a pas encore forcément d'opinions politiques qui sont bien, voilà, quand on est vieux en mort. Et ensuite, on a peut-être un effet de génération, parce que peut-être que nos parents ou nos grands-parents étaient plus socialisés à s'encarter dans des grandes organisations, etc. Troisième remarque, enfin, on s'aperçoit d'une représentation des catégories sociales et moyennes, sociales moyennes et supérieures et d'une sous-représentation des ouvriers et des employés parmi ces partis. Donc, dans l'ensemble, les militants étudiés tendent à avoir un niveau de diplôme bien plus élevé que la moyenne du niveau de diplôme des Français. Donc, on a deux tiers des militants du PS ou de l'UDF qui ont plus d'un bac, en fait, qui sont diplômés de l'enseignement supérieur. Et on a les trois quarts des militants UMP qui ont un niveau de diplôme supérieur au bac. Alors qu'en France, c'est 45% des Français qui sont au moins bacheliers, en fait, donc qui sont diplômés du supérieur. Donc au PS, parmi les militants interrogés, on rencontre seulement 13% d'employés, contre 21% dans le reste de la population, et 5% d'ouvriers, alors qu'ils sont 26% dans la population française en 1998, à l'époque de l'enquête. On remarque aussi que la part des professions moyennes et supérieures va croissante. À l'UMP, c'est encore pire, on a 2% d'ouvriers contre 43% de cadres et professions intellectuelles supérieures, qui sont en réalité 8% dans l'ensemble de la population française. À l'UDF, on a un tout petit mieux avec 30% de cadres et 9% d'ouvriers. Et c'est le PCF en fait qui se distingue des trois autres ici avec cette enquête de 97 que je vous ai citée, puisque c'est le parti le plus ancré populairement avec 31% d'adhérents communistes qui sont ouvriers et 33% d'employés. Donc néanmoins, même au PCF, en fait, on remarque que dans le temps, leur part ne cesse de décroître au profit des professions et des cadres et professions intellectuelles supérieures, notamment dans les instances dirigeantes du parti. Donc aujourd'hui, 20 ans après ces enquêtes, avec le développement du FN, qui recrute de plus en plus dans les milieux populaires, la donne a certainement changé et il faut nuancer ces chiffres. Donc est-ce que vous avez des petites pistes d'explication pour ce fait ?
Bah, si on le lit déjà aux chiffres de l'abstention, on remarque déjà que l'abstention est beaucoup plus forte dans les milieux populaires.
Voilà.
Et donc du coup, c'est une sorte d'excroissance du mouvement abstentionniste.
Mais derrière, il y a peut-être aussi une espèce de variable cachée qui est l'inégale répartition pour un intérêt politique, un intérêt pour la politique légitime dans les classes populaires. Et aussi le fait que les gens dans les classes populaires sont peut-être moins autorisés à prendre la parole en public pour revendiquer des causes. Voilà.
Et aussi peut-être... les classes populaires ont moins le temps de s'investir vraiment dans un parti, alors que les cadres aussi ont plus le temps de faire aussi, ça comme un loisir à côté.
Et moins d'argent à gaspiller dans les caisses du PS ou des Républicains.
Peut-être. Mais c'est aussi peut-être capital social aussi, avoir des entretiens des relations sociales, etc., qui ne sont pas les mêmes sur le milieu. Alors, et dernière petite partie. Là, on a quand même des différences qui sont assez marquées entre ces quatre parties. Donc, on a des différences notables avec un PS, par exemple, qui va recruter plus massivement dans le secteur public, avec 59% des militants qui travaillent dans le public, alors que l'UMP ne recrute principalement dans le secteur privé, avec 62% des adhérents UMP qui viennent du secteur privé. La part des indépendants est également deux fois plus importante à l'UMP qu'au PS, avec 26% contre 13%. Donc les indépendants, c'est tout ce qui est exploitants agricoles, artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Et enfin, à l'UMP, les employés sont relativement plus nombreux qu'au PS, fait un peu curieux. On a 12% contre 5%. Mais pour autant, en fait, cela ne signifie pas qu'ils ont un ancrage plus populaire de l'UMP, parce qu'en fait, quand on s'intéresse au profil de ces employés-là, ils sont relativement en déclassement par rapport à leur famille et ils viennent d'un milieu relativement aisé, en fait, qui n'est dans l'espace social. Donc, est-ce que vous avez un petit début d'explication pour ce dernier fait, le public versus le privé, ou ça reflète les idées ou les intérêts des militants. Et on n'a pas aussi les mêmes valeurs, les mêmes grandes valeurs d'un côté comme de l'autre, l'entrepreneuriat versus l'État, quoi. Donc, dernier point, enfin, concernant la pratique religieuse. On a 35% des adhérents UMP qui peuvent être qualifiés de catholiques pratiquants,
non,
alors qu'ils ne sont que 12% au PS. Et au contraire, ceux qui se disent sans religion sont 10% à l'UMP contre 47% au PS. Et par contre, les centristes de l'UDF sont en grande partie catholiques, avec 60% des adhérents qui se déclarent catholiques pratiquants. Donc ça, c'est un fait assez central. Les centristes sont très catholiques, presque plus catholiques que les républicains. Donc est-ce que vous avez un petit début d'explication, ça, la religion et la politique ? Le social au bouffe curé et le...
Bah, pour l'UDF, c'est assez normal dans le sens où c'est la démocratie chrétienne, donc c'est,
oui, aussi,
ça voilà. Se comprend à ce niveau-là. Bon, après, à gauche, oui, enfin, le mouvement, voilà, les mouvements anticléricaux, historiquement, ça se comprend.
Voilà, c'est plausible comme explication. Donc, pour résumer, si l'on conclut à la truelle en faisant fi de ces enquêtes qui ont... De l'écart de 15 ans qui nous sépare de ces enquêtes. On a un républicain type qui est un homme d'âge moyen diplômé du supérieur appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures, salarié du privé, plutôt catholique non pratiquant. Un socialiste type qui est un homme d'âge moyen diplômé du supérieur appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures, fonctionnaire et sans religion. Un centriste type qui est un homme d'âge moyen diplômé du supérieur appartenant aux catégories socio-professionnelles moyennes ou supérieures, catholique pratiquant. Et enfin un communiste, homme d'âge moyen plus susceptible d'être d'origine populaire que les autres. Voilà. Donc rien de nouveau sous le soleil. Donc nos préjugés sont en partie confortés, je ne sais pas pour les vôtres. Mais au moins c'est un peu plus scientifique et on a un début de réponse. Et Mathias, tu as un début de réponse pour tes crises insomnies lors des nuits de pleine lune.
Tout à fait, merci beaucoup Maëlys. Et on notera par ailleurs que le nombre d'adhérents au parti politique, donc tu l'as dit, a évolué. Et c'est aussi un argument de campagne.
Aussi.
Je pense à Emmanuel Macron qui revendique je ne sais pas combien d'adhérents au mouvement En Marche. Sauf qu'il oublie de dire que c'est une adhésion de principe. C'est une adhésion qui n'est pas militante puisque c'est une adhésion où on ne paye pas pour rejoindre le mouvement. Donc on peut afficher des chiffres mirobolants.
C'est le but, c'est comme les manifestations. Et surtout, personne ne veut divulguer le nombre exact, en fait.
Et aussi à Asselineau avec l'UPR, le parti qui monte malgré le silence des médias.
Oui, le parti qui monte mais dont on n'entend pas parler puisqu'il fait toujours 2% quand il arrive à présenter des candidats. Et c'est surtout intéressant parce qu'après ça rejoint aussi la question de quand on regarde la sociologie de l'Assemblée nationale.
Oui, bien sûr.
Puisque notamment à l'Assemblée nationale, enfin, c'est pire au Sénat. Je ne sais pas combien il y a de députés issus de milieux ouvriers.
Je sais, j'ai plus les chiffres en tête.
Mais non, mais c'est extrêmement peu.
Enfin, oui, c'est peu. Ça ne correspond pas du tout à la structure, la structuration de la population.
Parce que oui, je crois que si on fait un archétype du député, beaucoup viennent de la fonction publique, généralement haute fonction publique, quelques-uns de l'entreprise. Mais quand même assez peu. Et finalement, toujours un homme blanc d'âge moyen.
Et même là, le militantisme, on se rend compte qu'il est extrêmement élitiste. Hein.
Voilà, donc c'est pour vous faire réfléchir sur votre possible encartage futur. Tout de suite, on quitte la sociologie pour aller du côté de la fiction. Et de la fiction télévisuelle, si je ne me trompe pas.
Exactement, oui, la série.
Avec Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathias.